Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h41, dans un instant on reviendra sur cette vaccination pratiquement presque obligatoire pour les soignants. On en parlera avec Philippe Bilger, Eric Revel et vos appels 0826-300-300. En attendant, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, bah c'est en une justement de la revue de presse, hein, Benjamin. Cette question vient beaucoup, quoi. Est-ce que les soignants seront bientôt tous vaccinés?
Ben oui, on le retrouve dans beaucoup de journaux, notamment à la une du Parisien aujourd'hui en France. Le Premier ministre Jean Castex qui prépare donc un texte de loi pour rendre obligatoire cette vaccination des soignants, et ce alors que la menace d'une quatrième vague se fait plus forte. Le Parisien qui ajoute que d'autres catégories professionnelles pourraient même être concernées. Une bonne nouvelle néanmoins, ce sont les tests effectués sur les médicaments antiviraux à prendre sous forme de comprimés dès qu'on est positif, notamment le molnupiravir du labo américain Merck, dont les premiers résultats seraient prometteurs selon le Parisien aujourd'hui en France. En attendant, dans Nice et Varmatin, on revient à cette question. Forcément, toujours, le vaccin sera-t-il obligatoire? Les parlementaires seront consultés avant un projet de loi en septembre, voire dès juillet, alors que le variant Delta progresse encore dans les Alpes-Maritimes, mais pas seulement. C'est ce qu'indique d'ailleurs La Montagne et le Populaire du Centre, qui se demandent comment faire pour éviter une quatrième vague. Au-delà des soignants, les scientifiques insistent sur la nécessité d'accélérer notamment la campagne de vaccination chez les adolescents.
Oui, c'est vrai. Alors dans le même temps, les échos nous informent du spectaculaire rebond de l'économie française.
Ben voilà, une autre bonne nouvelle, ouais, l'INSEE qui anticipe une croissance de 6% en 2021. L'activité retrouverait son niveau d'avant-crise dès la fin de l'année. Plus de 300 000 créations d'emplois attendues. Le pouvoir d'achat devrait lui augmenter d'1,8%. Et le quoi qu'il en coûte ne serait pas complètement mort, à en croire les échos qui nous précisent que le ministère de l'économie prévoit de laisser filer la dépense davantage que prévu en 2022. 2022, année d'élection bien sûr, et c'est l'objet de la une de Libération avec ce titre sous forme de jeu de mots. Des candidats à gauche, oui, des candidats à gogo, à gauche, Éric Piolle et Éric Jadot qui se déclarent, Anne Hidalgo qui accélère, Mélenchon qui sort racine, le communiste Fabien Roussel et l'écologiste Sandrine Rousseau qui sont en embuscade. Les régionales passées, chacun se positionne pour se rendre incontournable à la rentrée.
Oui, et puis il y a du vélo à la une de l'équipe. Oui. Un air de... Imaginez, si la France était allée en quart de finale, ça aurait été évidemment l'Euro. Bah là, non, elle n'est pas là. Donc c'est le vélo et le Tour de France avec un air de classique pour cette septième étape du Tour.
Bah oui, sacrée étape. Hein. 249 km au menu entre Vierzon et Le Creusot, la plus longue étape du Tour de France depuis 21 ans. Une journée piégeuse et escarpée qui pourrait profiter aux baroudeurs et aux puncheurs avec donc cet air de classique. Alors ça pourrait notamment profiter à notre champion du monde français, Julien Alaphilippe, mais attention au Belge Wout van Aert et au maillot jaune, le néerlandais Van der Poel, qui figure au rang des favoris selon l'équipe. Et alors le foot, on en parle aussi, mais c'est plus du côté du Parisien aujourd'hui en France, avec l'avenir de Kylian Mbappé, voilà, au Paris Saint-Germain. L'équipe annonçait hier que c'était mal parti pour sa prolongation, et bien finalement le Parisien aujourd'hui en France dit que a priori il devrait prolonger. Ça sent les négociations en ce moment assez lourdes entre le Paris Saint-Germain d'un côté et Kylian Mbappé de l'autre.
Oui, absolument. Ça va être un feuilleton qui risque de durer pendant une partie de l'été.
Hein. C'est sûr, ouais. Ouais, clairement.
Merci à vous. On poursuit notre revue de presse avec Éric Berger, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi, qui est avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
En une de la Dépêche ce matin.
Oui, alors on s'est intéressé en fait à la dernière année du quinquennat Macron et aux fameuses réformes. Est-ce que le chef de l'État va relancer ces réformes? Est-ce qu'il va enfin se saisir du dossier des retraites ou pas? C'est la question qu'on pose ce matin. C'est vrai que pour le camp de la majorité, il vient de se passer des régionales catastrophiques. Il est peut-être temps de refermer la page et de passer à autre chose. Et visiblement, ça cogite dur du côté de l'Élysée pour savoir que faire dans les prochains mois. Il semblerait que le président va prendre la parole dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine, oui, ou au moment du 14 juillet, et faire des annonces sur la feuille de route de cette dernière année de son mandat. Alors, on a glané quelques informations avec notre journaliste à Paris. Visiblement, il y aurait deux réformes qui pourraient aboutir dans les prochains mois, quelque chose en direction des jeunes et puis aussi du grand âge. En revanche, visiblement, le débat fait rage chez ses conseillers sur l'opportunité de relancer la réforme des retraites ou pas. Ouais. On imagine bien que ce sujet très clivant pourrait remettre une partie de la France dans la rue, et à quelques mois de la présidentielle, c'est assez risqué. Et c'est ce que nous explique dans ce dossier Jérôme Sainte-Marie qu'on a interrogé, qui nous dit qu'effectivement, à quelques mois d'une présidentielle finalement assez ouverte, c'est risqué de relancer des réformes. Et il rappelle le précédent de François Hollande, qui avait fait des réformes, notamment cette fameuse loi El Khomri, avant la présidentielle, et que ça ne lui avait pas tellement porté chance.
Non, mais et c'est vrai, et ça peut être extrêmement clivant, quoi, la réforme à 64 ans. Sauf que vous avez raison, Éric, et c'est un bon dossier de faire le bilan des réformes, parce que à la fin de son quinquennat, alors perturbé d'une manière ou d'une autre, évidemment par la crise du Covid, et puis il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, mais déclenché aussi en partie par les décisions du chef de l'État, il n'aura pas énormément de choses à présenter en termes de bilan et de réformes.
C'est sûr, et je pense que ça fait partie des réflexions en cours en ce moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été élu en 2017 sur l'image du président réformateur, ce qu'il a tenté et commencé à faire au début de son mandat. Et patatras, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, et il y a aussi un risque politique à tout geler dans ces prochains 8-9 mois avant la présidentielle, et à ne rien faire, parce qu'effectivement, au début 2022, il faudra bien présenter un bilan, dire ce qu'il a fait, faire le bilan de son programme, et c'est presque tout aussi risqué de faire des réformes que de ne pas en faire. Donc le chemin de crête est vraiment très, très étroit. Il va falloir trouver les bonnes réformes, celles qui ne seront pas trop clivantes, mais qui peuvent lui amener un regain de popularité.
Oui, complètement. Merci beaucoup, Éric Berger. C'est un dossier particulièrement intéressant à lire dans La Dépêche ce matin, évidemment, le journal, ou alors, bien sûr, aussi la version numérique. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.
Et on vous l'a dit, le gouvernement préparait un projet de loi pour rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les soignants.
Oui.
Éric Revel et Philippe Bilger sont avec nous ce matin. Et vos appels 0826-300-300.
Oui, alors on va parler de cette vaccination, mais peut-être d'un mot, puisque Éric Berger vient de poser sur la table cette idée-là de justement des réformes et du discours d'Emmanuel Macron. Philippe Bilger, on en avait parlé l'autre jour. Est-ce que le chef de l'État doit parler dans quelques jours, quoi. Vous aviez parlé de quelques indiscrétions, Philippe.
Oui, absolument. C'est-à-dire, on sait qu'Emmanuel Macron déteste intervenir sous l'emprise immédiate du réel. Donc, d'une certaine manière, il nous fait lanterner sur le plan démocratique à la suite du résultat calamiteux des régionales et des départementales. Ce qui me frappe tout de même, c'est qu'ils ont tout fait, il a tout fait pour nationaliser ces élections, et il considère aujourd'hui qu'elles sont purement locales. Mais je pense qu'au début du mois de juillet, il va probablement d'une manière ou d'une autre intervenir. Alors, il semble qu'un remaniement d'ampleur soit exclu, qu'il y aurait des ajustements et que peut-être on s'orienterait, comme l'a dit Éric Berger, vers quelque chose qui constituerait une avancée dans le domaine de la jeunesse. C'est tout ce qu'on sait, et je pense que le chef de l'État, qui est particulièrement secret, n'a communiqué ses desseins qu'à Alexis Keller. Il n'y a personne d'autre qui peut peut-être en sait long là-dessus.
Oui, c'est son adjoint, en quelque sorte, secrétaire général de l'Élysée. Éric Revel, et on le disait sur le bilan des réformes, c'est assez maigre tout de même, non ?
Oui, c'est assez maigre. Alors, il y a toujours, j'allais dire, des excuses. Hein. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, qui devait faire aussi pas mal de réformes, s'est pris la crise des subprimes américains, des crédits immobiliers dans la figure. Bon, François Hollande, je passe. Et puis, évidemment, Emmanuel Macron, il y a eu la crise, comme vous la rappeliez, sanitaire. Mais attention quand même, parce que si le bilan et le chien est maigre pour Emmanuel Macron, on ne se fait pas réélire sur un bilan, en réalité. Alors, vous allez me dire, ça tombe bien, Emmanuel Macron, on n'a pas ou on n'a pas très épais. Mais souvenez-vous, par exemple, d'un Lionel Jospin face à un Jacques Chirac. Lionel Jospin, Premier ministre socialiste, qui avait quand même été celui qui avait le plus privatisé, des sociétés publiques, il n'avait pas un mauvais bilan économique, Lionel Jospin. Et pourtant, il a été battu par Jacques Chirac. Donc, il faut se méfier aussi sur le bilan. Alors, c'est vrai que Emmanuel Macron, il a beaucoup communiqué, il a beaucoup fait campagne en 2017 sur ses réformes fondamentales qu'il allait porter et qu'il allait mettre en œuvre. Le chien est maigre, encore une fois, mais attention. attention politiquement sous la Ve République. Avoir un bilan épais, c'est pas forcément un gage de réélection ou d'élection.
Oui, c'est vrai. Le chien est maigre, comme vous dites, Éric Revel. Alors, l'autre question dans l'actualité ce matin qu'on évoque et qui est également sur les réseaux sociaux, c'est cette vaccination obligatoire ou pas pour le personnel soignant. Le gouvernement pourrait trancher avec une loi. Alors, on avait parlé de septembre et ça pourrait même être en juillet. Votre avis, Philippe Bilger?
Moi, je trouve que c'est assez typique de la méthode française. Je trouve que le bon sens devait aller dans le sens d'une vaccination des soignants. Même quand on n'est pas doué dans ce domaine, on le comprend intuitivement. Et que de temps perdu. À partir du moment où, malheureusement, on n'a pas pu convaincre le personnel soignant globalement de se faire vacciner, eh bien, il fallait vite le contraindre. Et ce vaccin obligatoire, peut-être demain, il arrive vraiment avec beaucoup de retard. Il me semble que c'est assez typique d'une méthode française qui perd énormément de temps face à des évidences que le citoyen comprend peut-être parfois mieux que le pouvoir.
Éric Revel ?
Moi, je vais évidemment demander à Philippe ce qu'il en pense, mais moi, je pense qu'il y a deux aspects dans la question que vous posez, Patrick. Il y a un aspect juridique, juridictionnel, parce que va dire le Conseil constitutionnel, par exemple? Je pense que Jean Castex va évidemment le consulter, parce qu'en réalité, il faut un traitement égalitaire des citoyens français. Or là, vous faites des soignants et des médicaux une catégorie à part si vous faites passer une loi rendant obligatoire la vaccination. Donc déjà, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger, qui est que va dire le Conseil constitutionnel sur un traitement différencié des Français face à une éventuelle vaccination obligatoire. Et puis, deuxième sujet, il y a un sujet un peu plus, j'allais dire, moral et éthique. Moi, pardon, je vais peut-être vous faire sauter sur vos chaises, mais dès l'instant où les personnels soignants sont en contact avec de potentiels malades, moi, ça me semblerait tout à fait normal qu'ils soient vaccinés ou qu'ils aient à disposition, pourquoi pas, des traitements qui les empêchent peut-être de développer une forme très grave de cette maladie, puisqu'on parle de ces traitements, et vous en parliez tout à l'heure. Donc il y a cet aspect moral et éthique, mais j'aimerais peut-être, Philippe, si vous avez réfléchi à la question, avoir votre avis sur le Conseil constitutionnel, peut-il débouter le gouvernement, l'exécutif d'une telle loi ?
Vous, mon cher Eric, vous êtes très aimable de me prêter des préciences que je n'ai peut-être pas.
Je crois
qu'on pourrait échapper tout de même à l'argument très pertinent que vous développez si on parvient à démontrer que la catégorie des soignants représente véritablement un univers tellement singulier avec tant de contraintes, de devoirs et d'obligations qu'on pourrait comprendre pourquoi on lui fait un sort à part. Mais le Conseil constitutionnel est une éminente juridiction qui parfois nous surprend par ses chemins imprévisibles. Donc, je le dis avec beaucoup de prudence.
Ouais. 0826-300-300, c'est Olivier qui est avec nous de Bordeaux. Sur ce sujet, peut-être, ou d'autres. Bonjour Olivier.
Bonjour, merci de m'accueillir. Ah ben, sur ce sujet, je trouve ça... parce que moi, je ne suis pas du tout en accord avec vos invités, en fait.
Ouais.
Alors, je suis pas anti-vax, je précise, parce que j'ai toujours fait mes vaccins, j'ai des enfants, ils sont vaccinés. j'ai plutôt un bon rapport au vaccin. Ceci dit, là aujourd'hui, c'est encore un vaccin qui est expérimental. Moi, j'ai une cousine qui est morte 10 jours après le Pfizer d'une crise cardiaque. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Il y a 4 pilotes de British Airways aussi, je crois, qui sont décédés il y a 2 semaines. Enfin, il se passe des choses. Les soignants, ils sont pas fous. On les a applaudis. S'ils veulent pas se faire vacciner, ils sont quand même assez bien placés aussi pour avoir un avis là-dessus.
C'est quand même minoritaire par rapport en fait à l'ensemble, quoi.
La minorité ne fait pas la raison.
Bien sûr, ni la majorité.
Moi, je peux entendre que les gens veuillent se faire vacciner pour de très bonnes raisons, ou même des raisons qui les rassurent. Pour toutes raisons, je n'ai pas de jugement à avoir là-dessus, mais je veux avoir la liberté de vacciner mes enfants comme je l'entends, ou de me vacciner quand je comme j'entends, de ne pas servir de cobaye. Moi, je prends aujourd'hui, vu les chiffres, parce que je regarde et je m'intéresse, je prends plus de risques à me faire vacciner qu'à ne pas me faire vacciner.
Je ne sais pas.
Ça dépend à quel âge. Quand on regarde les chiffres, c'est un fait. Ouais. Après, ce qui est très embêtant, et moi, je le dis quand même, parce que là, on est en train de faire de cette histoire une norme, alors que l'expérimentation n'est pas terminée, qu'il faudra attendre 4 ans au moins, 5 ans, voir les effets secondaires derrière, et qu'il y a déjà des cas dont on ne parle pas beaucoup en France, c'est embêtant aussi. De la même façon qu'on ne parle pas des traitements comme l'ivermectine ou d'autres, et ce qui développe une forme de complétisme chez les gens, parce que on voit bien comme qu'on est sur le tout vaccin et que c'est le vaccin, rien d'autre que le vaccin, et ben les gens deviennent méfiants.
Ah ben on est trop clivant d'un côté comme de l'autre.
Ça rend les gens méfiants, et peut-être à juste titre. À un moment donné, il y a une façon.
Mais Olivier, oui.
Les soignants, c'est scandaleux.
Olivier, je reviens à ce qu'on évoquait hier avec un médecin généraliste qui était avec nous. Est-ce que vous, par exemple, vous avez vu votre médecin généraliste? Parce que souvent, on a confiance quand même dans son médecin, on en a un peu moins, parce que évidemment, les gens se déplacent, bougent et déménagent. Mais quand même, vous en avez parlé avec votre médecin généraliste ou pas?
Avec mon généraliste, et j'ai la chance d'être entouré de beaucoup de spécialistes et de beaucoup de soignants et de docteurs et de chirurgiens qui ne se feront pas vacciner. Voilà, et à un moment donné, ces gens-là, il va falloir aussi leur donner un petit peu la parole. On est dans une propagande. Moi, ça me pose un souci. C'est-à-dire qu'on est en train de décrédibiliser la science et la médecine parce que précisément, les choses ne sont pas faites comme elles devraient. Forcer les soignants à se vacciner, écoutez, ces gens-là, ils ont
mais vous savez que dans les années 80, il y avait, je l'ai vu, il y avait quand même des obligations pour les personnels soignants de se vacciner quand ils étaient, quand ils travaillaient dans des services, en fait, de santé.
Sauf que les vaccins étaient éprouvés. C'est pas le cas.
Je comprends le recul.
Ça, c'est un détail qu'on met de côté qui pose souci quand même. Moi, j'aimerais bien que les journalistes.
On met ça sur la table.
On en parle. Justement.
On en parle justement, Olivier, nous.
Du fait de se vacciner comme si c'était un fait normal, que le vaccin était sûr, que les données ne venaient pas de Pfizer essentiellement. Écoutez, ça pose un problème quand même. Ça pose un problème de fond. Il y a un problème politique et économique qui est lié à la situation sanitaire et qu'on ne peut pas enlever et qu'on ne peut pas mettre de côté. Je crois que c'est être malhonnête que de refuser de voir les enjeux politiques et économiques qui sont liés à ce vaccin d'un côté et l'urgence sanitaire de l'autre côté et l'usage qu'on fait des deux en même temps. Moi, j'ai un vrai souci et une méfiance. Je n'ai pas confiance.
Bon, merci Olivier d'avoir été avec nous, parlons vrai sur Sud Radio, on se dit les choses et on les pose en fait tranquillement sur la table, sans trancher, évidemment. Merci Philippe Bilger qui va peut-être rester avec nous parce que dans un instant, merci Eric Revel, dans un instant, on va parler de la justice et des injustices. Pour 7 Français sur 10, eh bien, ces injustices sont en augmentation en France. On va en parler avec Sophie Ferrier.
Oui, qui est une avocate au barreau de Nancy. Vous pouvez bien sûr réagir 0826 300 300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h07, le petit déjeuner de l'actu, ça continue. Pour 7 Français sur 10, les injustices sont en augmentation en France. Sophie Ferry est avec nous, avocate au barreau de Nancy et présidente de la commission en prospective du Conseil national des barreaux. Bienvenue.
Bonjour, merci.
Bonjour. Oui, c'est à l'occasion aussi de l'Assemblée générale du Conseil national qui a lieu aujourd'hui, donc avec tous les avocats réunis à cette occasion. Quels sont les secteurs où les Français ont le sentiment qu'il y a le plus d'injustice ou que la justice n'est pas bien rendue, alors?
Alors, je vais vous répondre tout de go. Ce sont deux questions différentes.
Ouais,
en fait, le ressenti d'injustice, il est général. 7 Français sur 10, vous le disiez tout à l'heure. 71% des Français ont l'impression que l'injustice progresse. C'est quand même un chiffre fort. Mais on voit que c'est un sentiment mélangé. Alors, s'agissant des secteurs dans lesquels l'injustice est le plus fortement perçue, c'est la justice, justement.
Ouais, ouais. Pourquoi, alors, la justice? Parce que c'est long, parce que ça traîne, parce que...
Il y a deux vecteurs principaux, je pense, et le sondage IFOP que le Conseil national des barreaux a réalisé le démontre. Le premier, c'est la longueur.
Ouais.
En fait, quand un Français s'adresse à la justice, il a une réponse qui est assez bonne, hein, puisqu'il y a seulement 39% de personnes qui considèrent que c'est injuste, la décision de justice. Donc, c'est que la justice est bien rendue, globalement. On pourrait penser qu'il y a 50-50, un perdant, un gagnant, c'est pas le cas. Mais vous avez une longueur de temps qui fait que la réponse, elle devient plus adaptée. Quand vous avez, par exemple, là on est au mois de juin, vous avez des parents qui veulent, qui sont séparés, et l'un veut changer les enfants de l'école. On est sur un besoin pour septembre. Et là, on n'a pas de décision possible, sauf dans 8 mois. On a un décalage. Alors on va vous parler de procédures d'urgence, etc., mais on manque de personnes pour les rendre, c'est compliqué.
Alors on manque...
Le second problème, ouais, c'est le coût. Ça a un coût d'accéder à la justice.
D'accès, en fait, à la justice. Il y a la longueur avec les délais, ça c'est vrai. Et le coût... Alors, et après, quels sont les domaines? Alors, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, ne pas manger à sa faim, l'insécurité dans son environnement. Qu'est-ce qui revient beaucoup?
Alors, vous avez les domaines, c'est en fait la pyramide de Maslow, hein. C'est d'abord les besoins élémentaires. Donc, ne pas manger à sa faim, ne pas pouvoir nourrir ses enfants, ça, c'est la première des injustices. Ensuite, on a des problématiques face aux enfants. C'est-à-dire, on a posé... En fait, le Conseil national des barreaux, avec l'IFOP, a posé des questions précises, concrètes aux Français, pour savoir dans quel secteur, quelle était la plus grande injustice qu'ils ressentaient. Et là, c'est par exemple le harcèlement d'un enfant à l'école. Donc c'est ensuite les problématiques de propriété, le fait d'avoir un propriétaire qui ne peut pas se faire payer ses loyers et les squatteurs ne sont pas expulsés assez rapidement. Donc on a les besoins élémentaires, la protection des enfants, la propriété, et puis ensuite, on a ensuite, bien sûr, toute la problématique des inégalités.
Oui, mais ce sont beaucoup les tracas du quotidien qu'on retrouve,
simple.
Là.
Hein,
c'est pas forcément sur des grands sujets, la criminalité, l'insécurité, même si ça existe aussi, bien sûr, mais c'est sur du quotidien. Quoi,
c'est là. Le quotidien, parce que l'injustice, elle est dans tous les actes de la vie quotidienne, et dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a un vrai... Il y a des différences parfois entre ces injustices. Par exemple, on va vous dire, moi j'ai un fort ressenti d'injustice parce que je pense que les étrangers ont plus de droits que les Français. Et parallèlement, on va vous dire, j'ai un fort sentiment d'injustice parce que je considère qu'il y a des discriminations sur les étrangers, etc. Donc on a des ressentis différents.
Et puis sur la délinquance, sur l'insécurité, beaucoup disent, alors on interpelle, on arrête des gens, on les retrouve. Alors ça, ce sont les policiers aussi qui le disent et pas simplement les gens qui habitent en fait dans ces quartiers, qui disent oui, on les retrouve immédiatement. Donc il n'y a pas de justice véritablement pour ces personnes-là.
Alors ce qu'il est important de noter aussi, c'est que les Français sont en vraie demande par rapport à ces points-là, mais ne considèrent pas que c'est un problème d'injustice. Dans la réponse, le sondage, l'insécurité n'est pas ressentie comme une injustice. Ils ne le mettent pas en avant, c'est pas une réponse prioritaire.
Ouais.
Et c'est intéressant parce que ce que vous dites, parce que l'injustice, c'est à différencier de l'insécurité. Mmh. Et on n'a pas mesuré jusqu'à présent, c'est la première fois par le Conseil national des barreaux, qu'on mesure l'injustice.
Oui, alors après, il y a aussi la relation magistrat-avocat, qui est toujours un éternel en fait, problème. Est-ce que, alors, certains avocats disent, c'est vrai, de toute manière, ça va pas assez vite parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans les tribunaux, etc. Est-ce que c'est vrai, vous constatez aussi cette détérioration, ou non, finalement, ça a toujours un petit peu existé?
Alors là encore, il faut faire preuve de lucidité, et on a un vrai besoin de sérénité. Sur la lucidité, en réalité, concrètement, les choses ne sont pas extrêmement dégradé. Il y a des magistrats, c'est une affaire de personne. Et tout le monde est impliqué dans la mission de justice qui est la sienne, que ce soit les avocats, les magistrats. S'agissant du Conseil national des barreaux, on travaille régulièrement avec des magistrats, avec des policiers, et ça se passe bien.
Il y a des liens. C'est pas chacun dans son monde, etc., qui défend dans son bunker. Parce que ça, on l'a évoqué un peu à plusieurs reprises.
Il y a des liens institutionnels qui sont forts, il y a des liens de travail qui sont évidents, et il y a des liens humains qui sont pérennes. Après, l'architecture des tribunaux actuellement rend les choses un petit peu plus compliquées. Les façons de travailler, on a besoin de productivité aussi. Donc, il y a aussi des perceptions de la sorte. Et puis, peut-être de la défiance parfois qui est pointée sur laquelle on focalise. En tout cas, il faut faire preuve de plus de sérénité.
Oui, Sophie Ferry, autre question, alors plus sur le métier et l'avenir de la profession d'avocat. On dit que beaucoup d'avocats dans des grandes villes, notamment, n'arrivent quasiment pas à vivre. J'exagère un peu, mais ils sont au SMIC. C'est-à-dire que c'est bouché, le métier d'avocat, aujourd'hui ?
Absolument pas.
Ouais. Alors oui, effectivement. Non, mais c'est une réalité quand même.
Non,
c'est vrai, d'avocats qui ont du mal et qui sont en train aujourd'hui de se reconvertir.
C'est pas beaucoup beaucoup d'avocats, ouais. C'est quelques avocats, et quand on prend les statistiques, on dit qu'il y a beaucoup d'avocats qui se reconvertissent. Mais ce chiffre-là, il est à l'identique dans la proportion entre la reconversion d'autres catégories professionnelles qui ont fait des études dans les 5 premières années. Donc c'est égal. Mmh. On essaye le métier d'avocat, ça plaît, ça plaît pas. C'est un métier beau, mais c'est un métier très exigeant, très compliqué. Ouais. On est vraiment multitâche et on doit avoir de multicompétences. C'est pas donné à tout le monde.
Oui.
Mais je ne dis pas que ceux qui s'en vont ne sont pas aptes à être avocats, ils font d'autres choix de carrière.
Non mais alors donc, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, tiens, peut-être qu'un jour je serai avocat ou je vais me reconvertir, ils peuvent aller dans cette profession, c'est pas bouché quoi.
Non, absolument pas. C'est simplement, le besoin de droit, c'est pas bouché, pourquoi ? Parce que le besoin de droit, il est...
Il explose.
Pléthorique. Vous avez des besoins de droit dans tous les domaines. L'économie, la presse, le droit à l'image, tout ça... Il y a des secteurs, il ne faut pas se focaliser sur les secteurs anciens, il faut aussi évoluer. La profession d'avocat a toujours évolué.
Avec une explosion du droit de la famille, on a eu une avocate qui nous disait que c'était, aujourd'hui c'était une vraie croissance.
Il y a l'actualité, mais vous avez aussi le droit des données, par exemple. Aujourd'hui, le droit à l'image, c'est des secteurs importants.
Et c'est vrai, ce jour-là, on avait un auditeur qui nous disait, oui, ben, les avocats ils s'entendent entre eux pour faire monter l'addition. Ça, c'est vrai ou pas ? On discute quand on est sur un même dossier, entre avocats, même partie adverse. Quoi.
Alors, ma réponse est simple, c'est complètement faux.
Oui.
Non. Bon. Non, il n'y a pas ce genre de choses. On a une force, nous, les avocats, c'est qu'on est habité, d'abord par les valeurs de notre métier, par notre éthique, et puis par la déontologie qui est respectée et qui est faite respecter.
Allez, un avocat général, donc c'est un magistrat, ancien avocat, est avec nous, Philippe Bilger. Bonjour Philippe, vous avez entendu la présidente de la commission prospective du Conseil national des barreaux. J'imagine que vous trépignez, vous avez envie de lui poser des questions. Alors pas trop, parce que nous ne sommes pas là avec vous jusqu'à 10h. Mais enfin, allez-y tout de même.
Non, mais j'aime beaucoup l'adhésion enthousiaste de la présidente Ferry au métier d'avocat. C'est la moindre des choses. Ouais. Mais bon, je pourrais nuancer en ce qui me concerne, mais pour répondre... À votre objet principal, Patrick, je suis très intéressé par le sondage, même s'il ne m'impressionne pas. Et je voudrais très vite dire que, sur le plan judiciaire, il faut tout de même accepter l'idée que la justice n'est pas un service public comme les autres, que naturellement, dans le cadre des contentieux, il y a au moins une partie qui considère qu'elle a été traitée injustement, parce que l'autre a obtenu trop facilement gain de cause. Et je pourrais développer, mais c'est un argument central. On ne va pas vers la justice comme si c'était un service public ordinaire. Les injustices dans la société civile, vous les avez rappelées tout à l'heure, et il y a un certain nombre de données objectives qui montrent qu'en effet, le sentiment d'indignation et d'injustice est justifié. Et enfin, je voudrais peut-être renvoyé à une psychologie collective du français qui a parfois tendance, dans sa subjectivité, à se vivre naturellement comme victime d'une injustice. Le français est assez naturellement protestataire et considère très rapidement qu'il y a une injustice là où parfois il y a simplement une normalité, un fonctionnement démocratique ou institutionnel.
Chacun regarde son intérêt, quoi, probablement, hein, sur Ferry.
Oui, mais il y a parfois une légère déviation qui va chez le français qui considère très rapidement qu'il y a une injustice parce que tout simplement il n'a pas perçu ce qu'il souhaitait et donc il faut faire attention à ce tempérament français.
Sophie Ferry.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Monsieur Bilger, mais le sondage
pour une fois
le sondage montre que il y a une différence entre la victimisation de la personne, c'est-à-dire l'implication de la personne dans l'injustice telle qu'elle le ressent pour elle. Elle le ressent beaucoup plus fortement pour les autres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des vraies valeurs qui sont défendues et qui sont intégrées.
Ouais. Dites-moi un mot de l'actualité. Là. Il y a eu perquisition hier au ministère justement de la Justice. C'est exceptionnel, c'est même très rare. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre en fait pourquoi M. Dupond-Moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt ?
Alors, je n'en sais pas plus que vous, puisque c'est une enquête en cours.
Décryptez quand même un peu, quoi.
C'est une situation qui est illustrante, en réalité, de ce que je vous disais tout à l'heure. Savoir, on a des tensions qui existent, qui sont mises en évidence, des crispations. Et là-dessus, il faut, je reprends le mot, de la sérénité. Et je note d'ailleurs que le président Macron en est parfaitement conscient, bien évidemment, puisqu'il organise en septembre-octobre, on n'a pas exactement les dates, les états généraux de la justice qui vont permettre de faire un état des lieux bien précis, des tensions exécutives, législatives et du fonctionnement de la justice. Mais on n'en sait pas plus, mais évidemment, le Conseil national des barreaux sera tenu informé. Ouais.
Merci beaucoup, Sophie Ferry, donc avocate au barreau de Nancy et présidente de cette commission prospective du Conseil national des barreaux, le Conseil national des barreaux qui est en assemblée générale aujourd'hui. Merci à Philippe Bilger. Oh, je plaisantais évidemment pour une fois, une question intéressante, une réflexion intéressante. C'est toujours le cas. Allez,
dans un instant, selon Pascal Pic, un paléo-anthropologue, vous allez voir que les chimpanzés n'auraient aucun mal à télétravailler, ce qui va nous faire réfléchir, nous, humains. Voilà, est-ce que nous sommes prêts? On vous donne la réponse dans quelques instants. Et en attendant, on va vous offrir des cadeaux, puisqu'on n'est pas venu pour rien, Patrick, aujourd'hui. On est venu pour offrir aussi des cadeaux avec notre partenaire, le parc Spirou, à Avignon. 0826 300 300 pour gagner 4 passes, 2 adultes, 2 enfants. Je vais vous poser la question. Entre 0
Allez,
et 20.
14e appel, c'est parti.
14e appel.
C'est pour vous, 4 places, Spirou.
0826 300 300. On revient tout de suite.